Ce matin, nous allons écouter un épisode de l'Évangile, un épisode de la vie de Jésus. Il sera question de parfums hors de prix, de rendez-vous à ne pas manquer, de gestes démesurés. Cette histoire se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux : « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit : « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'Évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Et nous allons raconter cette histoire le 21 octobre 2018 à Angoulême. Le contexte, nous sommes à 2 jours de la Pâque. Jésus sait qu'il va mourir et que sa mort approche. Les chefs religieux, les responsables de l'époque cherchent aussi à fomenter un complot pour qu'il puisse être tué, exécuté. Alors l'ambiance doit être triste, lourde, pesante, tendue. Et Jésus se trouve à Béthanie, non loin de Jérusalem. Il y a des amis, Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie. Là, il se trouve chez Simon le lépreux, que nous ne connaissons pas, peut-être quelqu'un que Jésus avait guéri. Et il se trouve là, à Béthanie, chez des amis, à partager un temps de paix, un temps d'amitié, un temps de partage, avant la tourmente, avant la souffrance, avant la solitude. Et pendant le repas, une femme s'approche. Nous ne connaissons pas son nom. L'évangile de Jean, qui raconte une histoire un peu semblable, nous dit que c'est Marie de Béthanie. Mais Matthieu et Marc ont voulu laisser cette femme anonyme. Peut-être pour mieux mettre en valeur son geste et surtout celui qui en est l'objet. Cette femme tient un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Dans une autre version, un flacon d'albâtre rempli de nard véritable, un parfum fort rare et fort cher. À l'époque de Jésus, les parfums de grand prix étaient conservés dans des pierres qui étaient taillées pour conserver le parfum. Si nous voyons l'évangile de Jean, en fait, si c'est une histoire semblable, hein, c'est gentil. Ça s'entend ?
Non, je pense que tu vas chanter.
Si nous regardons le passage parallèle dans l'évangile de Jean, nous voyons que Marie portait 1 demi-litre de parfum. Je ne sais pas si vous imaginez. Et c'était un parfum très cher au point que les disciples disent qu'on aurait pu le vendre 300 pièces d'argent, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de salaire. En clair, c'était un parfum que ni vous ni moi ne pouvions nous offrir. Et cette femme va casser le col du flacon. Il n'y avait pas d'autre choix pour l'ouvrir. C'était comme si c'était dans une pierre, il fallait le casser. Et elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. C'est un geste radical. C'est un geste irréversible. C'est un geste radical, c'est un acte irréversible, un peu comme la réponse à l'appel de Jésus. Un peu un geste de disciple de celui ou de celle qui suit Jésus, dont était sans doute cette femme. Souvenez-vous, Simon et André sont en train de pêcher et Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et l'évangile de Marc nous dit « Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent ». Un peu plus loin, il y a Jacques et Jean qui sont avec leur père en train de réparer des filets. Jésus les appelle, ils laissèrent Zébédée leur père dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Un peu plus loin, Lévi est installé à son poste de péage. Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se lève et le suit. Il y a un avant, il y a un après. Le geste de cette femme est un geste assurément de disciple, un geste radical, un geste irréversible. Elle répand le parfum sur la tête de Jésus. C'est un geste de respect, c'est un geste pour honorer, l'inviter. C'était apparemment à l'époque un geste assez banal de parfumer l'invité. Ce qui est un peu moins banal, c'est le demi-litre de parfum versé sur la tête de Jésus et d'un parfum vraiment très très cher. En fait, c'est un geste démesuré. Par le prix de ce parfum, par la quantité de ce parfum, c'est un geste démesuré, c'est un geste qui choque et qui va susciter des réactions de quelques-uns. Quelques-uns s'en indignèrent. Matthieu nous dit qu'en fait, ces quelques-uns, ce sont les disciples. Ces disciples qui manifestent leur indignation. Ils murmurent entre eux, ils ne ménagent pas leurs reproches contre cette femme, ils lui font de la peine. Il la malmène, au point que Jésus devra intervenir. Laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir est une belle action. Une belle action. Un geste démesuré, mais à la mesure du moment qui est en train de se vivre. Jésus va bientôt mourir. Jésus va bientôt mourir. Alors rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, rien n'est gaspillé, rien n'est gaspillage. Cette femme a compris ce que les disciples en fait avaient du mal à accepter et ce que Jésus pourtant leur avait annoncé. Il va mourir. Dans Marc 10, nous voyons qu'à l'approche de Jérusalem, il leur explique ce qui va se passer, qu'il va être maltraité, il va être livré par les chefs religieux, il va mourir et il va ressusciter. Et il est écrit que les disciples en sont troublés. Que l'angoisse s'est emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Auparavant, Jésus avait pris aussi le temps avec ses disciples pour leur enseigner ce qui allait lui arriver à Jérusalem. Et il nous est dit dans Marc 9 que eux, cependant, ne comprenaient pas ses paroles. Et ils avaient peur de lui demander des explications. Et encore un peu plus tôt, vous savez, dans cet épisode où Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Et puis ensuite, « Et vous alors ? Qui dites-vous que je suis ?» Pierre va faire cette belle confession « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et alors Jésus va leur dire qu'il va bientôt, qu'il devra mourir. Et Pierre le prend à part et lui fait des reproches. Les disciples avaient beaucoup de mal à accepter cette annonce de la mort du Christ. Alors l'étau se resserre, la Pâque approche. Nous sommes à 2 jours avant la Pâque. Les chefs des prêtres et les interprètes de la loi cherchent un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Cette femme, elle, l'a compris. Cette femme, elle, dont nous ne connaissons pas le nom, l'a cru. Alors elle veut être au rendez-vous. Elle a compris que ce que Jésus rappelle à ses disciples... Elle a compris ce que Jésus rappelle à ses disciples. Vous ne mourrez pas toujours. Vous ne mourrez pas toujours. Ce sont des paroles qui résonnent dans notre quotidien par rapport à ceux que nous aimons. Alors ne gaspillons pas ces temps où l'autre est à nos côtés. Prenons soin l'un de l'autre. Des paroles qui résonnent particulièrement lorsque l'être aimé approche de l'heure du départ. Vous ne mourrez pas toujours. Alors Jésus dit, vous ne mourrez pas toujours. Les pauvres, oui, vous les aurez encore après. Vous pourrez toujours leur faire du bien. Il ne s'agit pas ici d'affronter une piété uniquement centrée sur le Christ et puis une action plus sociale destinée au prochain. Jésus a dit que les commandements aimer Dieu de toute sa force, c'était était identique au commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Mais là, ce que Jésus voulait dire, que là, c'est un temps particulier. Je vais bientôt vous quitter. Un geste démesuré à la mesure de ses moyens. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Parole sur celle qui n'a pas voulu rater le rendez-vous. Des paroles qui encouragent. Des paroles qui consolent. Juste faire ce que nous pouvons avec nos limites. Mais au-delà de la mort d'un proche, et cela nous rappelle que Jésus était pleinement dans son humanité, au-delà de la mort d'un proche qu'était Jésus, se jouait autre chose. Est-ce que cette femme l'avait compris ? Est-ce que cette femme l'avait perçu ? Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement, dit Jésus. Un geste démesuré, un geste assurément d'amour, un geste à la mesure de la démesure de ce qui va se passer. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, celui qui est la vie, le Fils de Dieu va mourir. C'est un acte démesuré à la mesure de la démesure de notre situation vis-à-vis de Dieu. C'est un geste démesuré à la mesure de la démesure de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons été acquis à un grand prix, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. J'aimerais vous partager quelques extraits d'hommes dont les écrits sont très profonds. Un premier écrit de Dietrich Bonhoeffer dans son livre Le prix de la grâce. La grâce qui coûte. La grâce coûte cher, d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu. Parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un prix élevé. Parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Elle est grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous. La grâce qui coûte, c'est l'incarnation de Dieu. Et un autre extrait, de cette fois de Karl Barth, dans l'esquisse d'une dogmatique. Dieu s'est fait homme. Qu'on l'imagine un beau jour à la première page d'un journal, oui, il s'agit là d'une nouvelle vraiment sensationnelle qui relègue toutes les autres en dernière page. C'est ce fait infiniment bouleversant, incomparable et unique en son genre qui constitue le centre du christianisme. Ce qui se passe dans la crucifixion du Christ, le Fils de Dieu s'approprie ce qui devait être la part de la créature en révolte. Il n'abandonne pas la créature à elle-même, mais fait sienne sa détresse. Il ne l'aide pas seulement de l'extérieur comme on saluerait de loin, mais il s'approche de la misère de sa créature. Et pourquoi ? Pour que sa créature puisse se mouvoir librement et que le fardeau dont elle s'est chargée soit porté, emporté. Ce fardeau est si lourd qu'il devrait anéantir la créature, mais Dieu ne le veut pas. Il veut qu'elle soit sauvée. La créature est si totalement perdue qu'il ne faut, pour la sauver, rien de moins que le propre don de Dieu. Dieu est si grand que c'est là sa volonté, se donner soi-même. Il prend la place de l'homme. Voilà la réconciliation. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens : « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité, mais pour ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. L'évangile de Jean nous dit que toute la maison fut remplie du parfum. Et ce parfum venait de celui qui venait d'être parfumé. Ce parfum venait de Jésus. À lui toute l'attention de ceux qui sont dans la maison. À lui toute la place. À lui tout l'honneur. Amen. Face à ce don de Dieu, nous sommes dans ce sentiment de reconnaissance et de vénération, ce que cette femme a exprimé par le parfum. Mais nous avons aussi une sorte d'appel communautaire, aussi en réponse à la croix. Et lorsque nous allons passer à la scène, nous voulons nous souvenir que Christ a souffert pour nous et lui exprimer toute notre reconnaissance en nous souvenant de ce qu'il a fait pour nous. Mais nous voulons aussi l'exprimer de façon collective, de façon communautaire aussi. Christ a fait de nous des frères et des sœurs. Et ce qui est intéressant dans l'hymne que nous avons lu, l'hymne, vous savez, de l'Église primitive, qui a été le fil rouge de la louange, il fait suite à des paroles de Paul qui parlent justement de la communauté. Et donc c'est ce que je vais vous lire. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? Dans l'amour, un encouragement? Par l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre dans l'unité. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Et suit ensuite l'hymne, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à garder l'égalité avec Dieu, mais se dépouilla lui-même. Il se fit serviteur, il fut pleinement homme, et il alla jusqu'à la croix.